Quand on dit d'un enfant qu'il est sauvage, ça doit vouloir dire qu'il n'est pas sage. Mais ça peut aussi vouloir dire bien plus. Par exemple, on appelle enfants sauvages des enfants qui ont grandi seuls, isolés des hommes, au milieu d'une nature sauvage et à l'écart de tout. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire extraordinaire. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est une histoire vraie. Une histoire extraordinaire, mais vraie. On se moque souvent de ceux qui racontent cette histoire, et vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. On les traite de menteurs, on leur dit qu'ils racontent n'importe quoi, on s'énerve, on leur coupe la parole. Alors ceux qui essaient de raconter cette histoire n'arrivent pas toujours à la raconter jusqu'au bout. Eh oui, c'est souvent ça le problème. Quand on écoute une histoire, on n'aime pas qu'on nous raconte n'importe quoi. On n'aime pas être pris pour des idiots. Des idiots à qui on peut faire croire n'importe quoi, c'est vrai, c'est énervant. Mais c'est quoi un idiot, après tout? Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un idiot? L'enfant dont je voudrais vous parler aujourd'hui ressemble peut-être à un idiot. Si un jour vous et moi on se rencontrait pour de vrai, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et je vous poserai la question. D'après vous, est-ce que cet enfant est idiot ou non? En attendant, voilà comment son histoire commence. Un jour, un homme et une femme abandonnèrent leur enfant dans la forêt, pour une raison mystérieuse. Est-ce parce qu'ils ne pouvaient plus s'en occuper? Est-ce qu'ils fuyaient un grand danger? Était-ce un accident? Personne ne le sait. Toujours est-il que cet enfant se retrouva seul dans la forêt à l'âge de 3 ou 4 ans. Des années passèrent. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, l'enfant survécut. Il grandit dans la forêt. Il dormait dans les arbres et se nourrissait de racines et de glands. À part quelques animaux, il ne voyait personne et se déplaçait complètement nu, été comme hiver. Un matin, les chasseurs d'un village alentour, pensant attraper un joli petit gibier, se lancèrent à sa poursuite. Les chiens trouvèrent l'enfant caché dans un taillis. Il ne fallut pas moins de 4 chasseurs pour le ligoter. On le ramena au village, où il fut recueilli dans une grange. On essaya tour à tour de le laver et de l'habiller, mais l'enfant mordait quiconque l'approchait. Tout le monde dans le village venait découvrir dans la grange cet enfant qui dormait à même le sol comme une bête. Qu'allait-on faire de lui? On décida de l'emmener en voiture au commissariat le plus proche. Avant de partir, le maire du village écrivit une lettre pour raconter comment cet enfant avait été trouvé. Il confia cette lettre au jeune garçon qui la garda serrée contre lui. Pendant le voyage, l'enfant fut terriblement malade. C'était la première fois qu'il montait dans une voiture. L'odeur de plastique et de moquette d'usine lui donnait terriblement mal au cœur. Collé à la vitre et la bouche grande ouverte, il poussait de tels gémissements qu'on dut s'arrêter un instant. À peine sorti de la voiture, l'enfant en profita pour s'échapper et courir à travers champs. On le retrouva quelques jours plus tard, perdu sur la place d'une grande ville.
Eh ben alors, mon bonhomme, t'es perdu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu fais tout seul dans la rue, accoutré comme ça? On t'a volé tes vêtements? Elle est où, ta maman? Qu'est-ce que tu tiens dans ta main, là? Ben doucement, n'aie pas peur, je veux juste t'aider. Dis voir, où est-ce que t'habites? T'as pas une petite idée? Tu sais comment rentrer chez toi? Hein? Non? On dirait pas, je peux t'aider si tu veux. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as l'air tout affolé, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux pas me dire? Mais roule pas des yeux comme ça, il va rien t'arriver de mal, mon petit gars, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main, hein? Mais doucement, grogne pas comme ça. Oh. Je veux juste regarder s'il n'y a pas une petite adresse écrite ou quelque chose comme ça, on sait jamais. Allez, tout doux. Hein? Tout doux. Voilà, donne-moi le papier. Allez, voilà. Tout doux. Voilà, donne-moi le papier, là, comme ça. Voilà. Mais il m'a mordu! Bon sang, il m'a presque bouffé, le petit doigt! Oh, le sale gosse, je rêve! Mais pourquoi tu m'as mordu comme ça? Oh, nom de Dieu, je pisse le sang! Mais c'est pas vrai! C'est quoi ton problème? On mord pas les gens comme ça, sans raison! Oh, me v'là bien, donc tu parles d'un coup. Alors là, mon vieux, démerde-toi. J'ai eu ma dose, merci. Je l'ai cinglé, ce gamin. Qu'est-ce que c'est que ce sauvage?
Après avoir mordu plusieurs passants, l'enfant fut finalement arrêté et emmené au commissariat le plus proche.
Nom, prénom. Date de naissance. Adresse du domicile. Bon, tu t'assois, s'il te plaît. Eh ben, tu as bu? Est-ce que tu as bu? Oui, toi. Oui, c'est une chaise. Bon, comment tu t'appelles? Ouh, comment tu t'appelles? Tu parles français? T'entends quand je parle? Est-ce que tu entends quand je parle? Si tu m'entends, fais oui avec la tête comme ça. Oui, tu m'entends? Oui? Non? Ouais. On a pas l'air bien malin celui-ci encore, hein. Bon, tu peux expliquer pourquoi tu mords tout le monde comme un sauvage? Non, aucune explication, bon, très bien. Si t'as pas envie de passer ta vie dans une cage, faudrait arrêter de te prendre pour un chien. On n'a pas encore inventé les muselières pour enfants, vois-tu? C'est peut-être pas plus mal, non? T'en dis quoi? 10 plaintes pour morsure en une après-midi, ça t'arrive souvent de faire ça? Et papa et maman, ils vont dire quoi quand ils vont apprendre que t'as passé l'après-midi à faire le sauvage? Ils sont où, tes parents? Je comprends pas ce que tu dis. C'est quoi, ce papier? Tu veux bien me le donner ou tu vas m'arracher la main? Regardez-moi ça. Eh ben, tu vois quand tu veux. T'es doux comme un agneau. Merci.
Le policier lut la lettre que l'enfant venait de lui remettre.
Mais d'où tu sors, mon gamin? Allez, viens, suis-moi. On va voir ce qu'on peut faire pour toi.
L'enfant fut conduit à l'hôpital. Au bout de quelques jours, l'histoire du jeune sauvage était dans toutes les bouches. Tout le monde s'inquiétait pour le sort de cet enfant qu'on surnommait déjà l'orphelin de la forêt. Les journaux racontaient comment on l'avait trouvé, et la même question revenait toujours. Qu'allait-on faire de lui ? Son cas intrigua de nombreux médecins, les plus grands spécialistes vinrent l'examiner, et après plusieurs jours, le professeur Pinel présenta ses résultats devant l'assemblée de ses collègues.
Cet enfant a développé dans le milieu sauvage dans lequel il a grandi des capacités physiques extraordinaires. Malheureusement pour lui, on ne peut pas dire que ses capacités mentales soient conformes à sa condition. Ce n'est ni une bête de foire, ni un animal que vous avez sous les yeux, encore moins un sauvage. C'est d'abord un enfant. Et avec beaucoup de retard. Il ne sait ni lire ni écrire, évidemment, mais il ne répond pas non plus aux questions qu'on lui pose, ni par les mots, ni par les gestes. Bon, il est incapable de tenir assis sur une chaise, ni d'ouvrir une porte. Quand il se voit dans le miroir, il soulève la glace et cherche celui qui se cache derrière. Il assomme tout le comportement d'un idiot. Cet enfant est inférieur à tous les autres enfants que nous avons ici à l'hôpital et par moments, il semble même au-dessous de l'animal. Je vous remercie.
Un animal, on s'occupe de lui. On essaie de l'éduquer.
Mais en est-il seulement capable ? Est-ce qu'on peut encore lui apprendre quoi que ce soit ? Cet enfant est arriéré de naissance, il en a tous les signes. C'est d'ailleurs certainement la raison pour laquelle il a été abandonné dans la forêt. Il n'a pas sa place dans une école, il serait complètement perdu. Je ne vois pas d'autre solution pour lui que de l'envoyer chez les fous, à Bicêtre, où il pourra recevoir tous les soins qu'il mérite.
Si c'est pour l'enfermer dans un hôpital pour le restant de ses jours, pourquoi ne pas l'avoir laissé dans sa forêt ?
Je vous demande pardon.
Si son cas est à ce point désespéré, pourquoi le priver d'une belle campagne où il pourrait brouter en paix l'herbe de nos vaches ?
Êtes-vous sérieuse ?
Non, professeur. Et je ne suis pas non plus de votre avis. Rien ne nous permet de dire aujourd'hui que cet enfant soit arriéré. Cet enfant sort de sa forêt. Et vous lui demandez de s'asseoir sur une chaise, d'ouvrir la poignée d'une porte, de s'extasier devant la tour Eiffel, mais il s'en fout complètement.
Je n'ai pas parlé de tour Eiffel.
Ce qui se passe dans sa tête aujourd'hui doit être l'équivalent d'un raz-de-marée. Ce qui nous semble normal, lui, il le prend de plein fouet. Alors on peut excuser son air assommé et ses regards perdus, vous ne trouvez pas ?
Mais alors que peut-on faire de lui ?
L'envoyer à Bicêtre, mais ce serait un désastre. Le milieu sauvage dans lequel il a grandi est sûrement responsable de tous ses retards. Et s'il ne parle pas, c'est qu'il n'avait personne à qui parler. Est-ce que vous avez déjà eu une conversation avec une libellule, vous ?
Oh, écoutez, je vous en prie, gardez pour
vous
ce type
de
familiarité.
Mais rien ne nous dit qu'il n'est pas capable d'apprendre.
Je pense qu'il a été abandonné par ses parents parce qu'il était anormal. Vous pensez qu'il est anormal à cause de son isolement ?
Oui.
Alors pourquoi l'a-t-on abandonné ?
Je ne sais pas.
Ah !
C'est un malheur que je ne peux pas encore expliquer.
Bon, vous pensez pouvoir faire quelque chose pour lui ?
Oui. Je voudrais tenter de faire son éducation. Mais pour cela, il faudrait que l'administration me confie complètement la garde de cet enfant.
Vous voulez l'emmener avec vous, chez vous ? Mais comment ferez-vous ?
J'habite une maison. Et avec mon aide-soignante, Madame Guérin, nous pourrons nous occuper de lui. Il a grandi seul, coupé des hommes. Il n'a pas pu développer d'intelligence. Mais nous serons tous bientôt surpris par les progrès qu'il fera.
Alors, non, vous êtes jeune, c'est beau d'avoir des idéaux, mais voyez-vous, mademoiselle, dans l'éducation d'un enfant, il y a une horloge du développement. Autrement dit, après l'heure, c'est plus l'heure. Tout ce qu'il n'a pas appris, il ne l'apprendra jamais. Voilà, c'est malheureux à dire, hélas, mais c'est comme ça. Et je ne crois pas que vous obtiendrez lui quoi que ce soit. Il ne pourra jamais rentrer dans une école, ni se faire des copains. Il n'y a qu'à voir comme il s'est fait rejeter par tous les autres enfants ici à l'hôpital. Vous en ferez peut-être un gentil petit gars, mais pour le reste, c'est sans espoir. Enfin, bonne chance. Ou plutôt, bon courage.
On dirait qu'on a du travail, toi et moi. Qu'est-ce que t'en dis ? Et si vous commencez par faire un jeu ? Tu dois en avoir marre de voir défiler toutes ces blouses blanches. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Et si on commençait par faire un tour dans les bois ?
Après un petit tour dans les bois, la jeune médecin emmena l'enfant sauvage chez elle et le présenta à son aide-soignante, Madame Guérin.
Voyez-vous, Madame Guérin, pour commencer, il faut lui apprendre les choses les plus élémentaires. Se laver, se chausser, s'habiller, se nourrir. Vous comprenez ? Tout ce qu'il fait avec nous, tout ce qu'il fait depuis son arrivée ici, il le fait pour la première fois.
Oui, je vois, mais pourquoi est-ce qu'il a toujours le nez par terre ?
Pour commencer, il faut lui apprendre à marcher sur ses jambes. Eh ben, emmenez-le-moi à l'intérieur.
Oui,
Allez, viens avec nous à l'intérieur.
La jeune médecin et Madame Guérin tentèrent d'apprendre à l'enfant à marcher sur ses jambes. Elles voulurent lui apprendre à jouer, mais pour le moment, aucun jouet ne retenait son attention.
Il s'en fiche complètement.
L'enfant était surtout occupé à ramasser des noix et à les cacher dans tous les recoins de la maison comme pour rassembler des provisions pour l'hiver.
Vous avez vu, il m'a piqué ma noix.
Il rechignait toujours à porter des vêtements et pouvait rester toute une matinée à moitié nu dans le jardin à écouter le chant des oiseaux et ce, sans attraper le moindre rhume. Il apprit à reconnaître et même à désigner certains objets. Un pot, un marteau, une bouteille d'eau, une paire de ciseaux, chaque fois qu'il entendait le son « eau », il se redressait. Il retrouvait dans ce son quelque chose de profondément familier. La jeune médecin proposa un jour à l'enfant de l'appeler Victor. L'enfant avait l'air d'accord. Il avait donc maintenant un prénom. Un jour que Victor avait passé une après-midi entière à travailler, la jeune médecin lui proposa un dernier exercice.
Victor, tu as reconnu cette bouteille d'eau. Je voudrais maintenant que tu apprennes à la nommer. Allez Victor, c'est le dernier exercice. Tu aimerais jouer et courir avec d'autres enfants. Mais pour les rencontrer, il faut te faire comprendre. Tu as une voix, Victor, elle est sûrement très belle. Mais pour l'entendre, il faudrait la faire sortir de ta bouche. Quand tu veux de l'eau, c'est simple. Tu dis le mot « eau » et ensuite, tu peux boire. Tu as compris? À toi. Dis le mot « eau ». Eau, non, Victor. D'abord, tu dis le mot « eau ». Et ensuite, tu pourras boire. Non, Victor, qu'est-ce que je viens de dire? D'abord, tu dis le mot « eau ». Et ensuite, tu pourras boire. Allez, concentre-toi. Non, Victor, pas
non,
de mots,
bon,
pas d'eau.
Il est fatigué.
Il reconnaît le son « eau », il doit pouvoir le dire. On se concentre. Allez, dis le mot. Non, Victor. Tu dis d'abord le mot et ensuite, tu pourras boire.
Le pauvre petit, on va pas être sur son dos comme ça toute la journée.
Très bien. Allez donc lui faire couler un bon bain bien chaud. Ça va le calmer. Il faut le sensibiliser à la chaleur si on veut l'habituer à porter des vêtements.
Allez, viens avec moi, Victor. Viens, on va prendre un bon bain chaud. Viens.
Victor faisait des progrès. Chaque jour. On pouvait l'habiller, le laver, le nourrir. Il devenait chaque jour un peu moins sauvage.
Viens ici. Victor.
Enfin, presque. Il se prêtait de plus en plus facilement à tout ce qu'on lui demandait. C'était la première fois que quelqu'un lui donnait une attention particulière. C'était la première fois qu'on s'occupait de lui.
Chaque jour, pendant un temps calme, Madame Guérin prenait la main de Victor, la posait sur sa gorge pour lui faire sentir les vibrations de sa voix. Chaque jour, elle cherchait à lui faire émettre un son. La jeune médecin les observait avec une attention toute particulière.
Allez, Victor, fais un effort. Ta voix est là, ne demande qu'à sortir. Tu aimerais t'amuser avec d'autres enfants, n'est-ce pas? Mais pour cela, il faut pouvoir parler. Il faut pouvoir donner ta parole. Laisse remonter tous ces mots enfouis au fond de toi dans la forêt. Fais-moi confiance, tu sais parler. J'en suis sûre. Fais-toi confiance.
Malgré tous leurs efforts, Victor ne parlait toujours pas. Il attendait chaque jour avec impatience que Madame Guérin l'emmène en promenade. C'était son heure préférée. Il parvenait toujours à s'échapper et grimpait dans un arbre.
Descends, Victor. Allez, sois gentil. Descends maintenant. Hein. Sois gentil, écoute-moi. Allez, on va pas y passer la nuit. Descends maintenant. Bon, je te préviens, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 2 et demi. Victor, je te préviens, si tu descends pas tout de suite, ça va mal se passer, tu seras puni. Bon, Victor, si tu descends pas, je t'emmènerai plus en forêt. Voilà, t'as compris? Trop tard, voilà, terminé, t'as tout gagné. Voilà, c'est fini, trop tard. La forêt, maintenant, c'est terminé. Alors là, je peux te dire, on n'y retournera plus jamais en balade. Oui, bah, tu peux rester là-haut, hein, profites-en. On n'y retournera plus jamais dans tes arbres, plus jamais. Oui, bah, tu peux me regarder avec cet air de cochon, je perds mon temps avec toi. Hein. C'est toujours la même chose, c'est toujours pareil. Avec tout ce qu'on fait pour toi, voilà comment tu nous remercies. Mais tu te rends pas compte de la chance que t'as. Mais tu veux que je te dise, ton problème, c'est que tu n'écoutes rien. Voilà, tu n'écoutes rien, tu n'en fais qu'à ta tête. Et moi, je suis découragé. Voilà, déçu et découragé. Et par moments, je regrette même de t'avoir connu. Oh. Eh ben, c'est pas trop tôt. Tu pleures? Ah ben non, faut pas pleurer. Ah non, faut pas m'écouter, je dis n'importe quoi. Allez, pleure pas, c'est rien, c'est fini. Voilà, ça y est. C'est terminé. Ça va mieux? Oh non, quelle idiote. Ah, puis voilà que ça me prend. Ah ben, j'ai pas l'habitude de te voir dans cet état, tu comprends? Mais c'est la première fois que je te vois pleurer, alors forcément, ça me remue. Mais bon, c'est pas grave. Là, c'est bien de savoir pleurer. Quand les enfants sont tristes, ils pleurent et puis ça fait du bien, voilà. C'est pas compliqué. Allez, viens. Allez, viens, Victor. On rentre à la maison.
Cela faisait maintenant plus d'un an que Victor suivait nos leçons. Il se tenait debout sur ses deux jambes, ne courait plus à quatre pattes, ne mordait plus, savait s'asseoir sur une chaise, ouvrir une porte, se tenait à table tout un souper, manger proprement, débarrasser son assiette, se laver les mains, brosser ses dents, enfiler seul son pyjama et se coucher sans faire d'histoire après avoir préparé ses affaires pour le lendemain. Il avait bien compris ce qu'on appelle les règles. Il ressemblait de plus en plus à un enfant comme les autres. Et mieux encore, il ressemblait de plus en plus à un enfant modèle. Tous ses progrès avaient été si extraordinaires que sa vie dans la forêt semblait bien lointaine. On se demandait même si elle n'avait jamais existé. Tout allait pour le mieux. Tout était parfait. Mais il ne parlait toujours pas. Pas moyen de lui faire sortir le moindre mot. Il commençait à dessiner et à écrire. Mais plus le moindre son ne sortait de sa bouche.
Une nuit, ne trouvant pas le sommeil, Victor se leva. Il descendit l'escalier et manqua de tomber. Il ouvrit la porte pour rejoindre le jardin. La neige commençait de tomber. Il alla s'asseoir sur le petit tapis de neige qui recouvrait le sol. Pourquoi sa voix ne voulait-elle plus sortir de sa bouche? Il avait dû savoir parler, mais il ne se souvenait plus du son de sa voix. Sa voix l'avait quitté. Un homme se tenait près de la lourde grille du jardin.
Qu'est-ce que tu fais là, tout seul? Je te vois tous les soirs, viens t'asseoir ici, tout seul. En plein milieu de la nuit, ça va pas? Je peux faire quelque chose pour t'aider? Si je peux faire quelque chose pour toi, n'hésite pas, profites-en, tant que je suis encore là. Je pars dans pas longtemps, on quitte la ville. Je vais monter dans mon camion, tu vois là-bas. Puis je vais reprendre la route. C'est la vie d'un manège. On quitte une ville pour une autre, on roule toute la nuit. Comme ça, on n'est jamais obligé de rester au même endroit. Comme ça, on n'est jamais coincé dans la même maison. Et je t'ai regardé grimper aux arbres. Bah, tu te débrouilles bien. T'aurais tout ce qu'il te faut avec nous. Si jamais tu venais avec nous, tu pourrais vraiment vivre, faire ce qui te plaît. C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, non? Faire ce qu'on veut. Faut pas s'embêter à transpirer toute la journée pour faire tout ce que les autres te disent de faire, pas vrai? Si jamais tu venais avec nous, tu pourrais vraiment te sentir libre. En tout cas, tu resterais pas assis toute la journée à faire tout ce qu'on te dit, là, comme un robot. Si ça te tente, il reste une place dans le camion.
Moi, si j'étais toi, j'hésiterais pas. Mais bien sûr, t'es libre. Personne t'oblige à rien. Tu fais comme tu veux. Allez, salut!
Victor ne remonta pas dans sa chambre. La neige continuait de tomber. Malgré tous les efforts qu'il avait faits pour apprendre à vivre dans cette maison, il avait envie de partir là, maintenant. Il était prêt à suivre cet inconnu en plein milieu de la nuit. Il était prêt à faire ce que tous les enfants savent qu'il ne faut pas faire, suivre un homme qu'on ne connaît même pas depuis 5 minutes, monter dans son camion pour aller on ne sait où. Ça tournait dans sa tête. Victor sauta par-dessus la grille et grimpa dans le camion.
Allons-y, messieurs, dames, approchez, approchez.
Le directeur de foire avait donc emmené Victor avec lui.
C'est parti.
Il le fit travailler pendant des semaines sur un numéro assez impressionnant. Le directeur espérait gagner beaucoup d'argent avec cet enfant qui savait tout faire comme une bête. Il installa son chapiteau aux abords d'une grande ville, et en à peine un mois, on trouvait partout dans la ville des affiches énormes avec écrit sur toute la diagonale en lettres rouges le mot « complet ». Victor était devenu une attraction, et ce soir-là, une foule immense faisait la queue pour le voir dans son numéro. Let's begin. Alors que le succès lui tendait les bras, plusieurs soirs de suite, Victor s'arrêta en plein milieu de son numéro. Immobile devant les spectateurs, il était incapable de bouger. Le directeur cherchait à le faire sortir de son corps bloqué, mais rien à faire. Victor ne voulait ou ne pouvait pas bouger. Le directeur s'agitait, blaguait avec le public qui déjà s'impatientait, et chaque soir, sans savoir comment, le directeur réussit à décoincer Victor pour qu'il poursuive son numéro. Un soir, Victor se bloqua à nouveau et ne bougeait pas du tout au centre de la piste. Excédé par ces incidents à répétition, le directeur brandit un fouet qui manqua de peu de toucher et de blesser Victor. Le directeur était furieux. Le public le sifflait et le huait. Quel triste spectacle! Il dut rembourser toute la salle. Et comme le directeur tenait à son argent plus que tout au monde, il décida de tout arrêter. Ce soir-là, le directeur emmena Victor hors de la foire, à la lisière d'une forêt.
Je peux pas te garder plus longtemps. Je peux pas te garder, sinon je vais faire de toi un animal, et ça me fait pas plaisir, tu comprends? Les animaux, j'en ai déjà plein, j'en ai pas besoin. Tu comprends? J'ai pas besoin d'un enfant que je dresse comme un animal. J'ai pas non plus besoin d'un animal que j'arrive même plus à traiter comme un enfant. Ça me fait pas plaisir de manier le fouet devant toi. Ça me fait pas plaisir que tu jettes sur moi ces regards méfiants. T'as bien raison de te méfier. C'est ici que nos routes se séparent. Retourne dans ta forêt, mon enfant, c'est encore là que t'es le plus à ta place. Regarde comme elle est belle, cette forêt. Tu vas bientôt pouvoir t'y couler comme une eau sous la mousse. Va, mon enfant.
Sans se retourner, Victor avança ventre à terre dans la forêt, au milieu des fougères. La forêt semblait attentive à son retour. Les feuillages frétillaient. Et la nuit se remplissait déjà partout dans les branches et tout autour des arbres. Victor cherchait un recoin pour dormir. Il cherchait à se fondre dans ce décor nocturne. Il se nicha à l'entrée d'un terrier, puis contre les racines d'un arbre. Mais chaque fois qu'il essayait de s'y installer, il n'arrivait pas à s'y blottir. Un animal le chassa, il tomba d'une branche, des feuillages le gênèrent. La forêt ne voulait plus de lui. Après avoir traversé de très grands arbres sombres, Victor regagna une prairie.
Cela faisait des semaines que Victor avait disparu. s'était enfui cette nuit-là et nous n'avions, Madame Guérin et moi, aucune nouvelle de lui. Je pensais très souvent à lui. Je m'inquiétais un peu. Je m'en voulais beaucoup. Je repensais à toutes ces choses que j'avais voulu lui apprendre si vite. Je regrettais d'avoir été si dure avec lui. Je regrettais de l'avoir obligé à ce point à parler.
Ce matin-là, la jeune médecin ramassait des feuilles mortes dans le jardin. Elle entendit la grille s'ouvrir et elle se retourna.
Victor ? Madame Guérin ? Enfin, tu es rentré, Victor ! Je suis tellement heureuse ! Tu es rentré chez toi. Tu comprends, Victor ? Tu es chez toi. Tu n'es plus un sauvage. Tu n'as plus besoin de te retourner dans la forêt. Tu m'entends ? Tu n'as plus aucune raison de quitter cette maison. Tu as encore tout ce temps pour grandir. Tout ce temps qui est le temps de l'enfance, personne n'a droit de te le prendre. Tu m'entends ? Tu es un jeune homme extraordinaire. Tu es un jeune homme aux grandes espérances.
Victor s'approcha de la jeune médecin. Elle lui caressa les cheveux, les joues, et pour la première fois, elle le prit dans ses bras. Elle lui promit de toujours veiller sur lui. Ils étaient maintenant liés par cette promesse. Plus rien ne pourrait les séparer. Alors elle lui baisa longuement le front et le remercia. Nous, les adultes, nous devons remercier l'enfant sauvage qu'il y a en chacun de nous. Tout au fond de nous, cet enfant se tient en silence et n'oublie pas. Il n'oublie pas les peurs qu'il a traversées et il n'oublie pas non plus les rêves qu'il a portés. Nous, les adultes, nous avons besoin de cet enfant qui dort en nous. Nous devons en prendre soin, nous devons le chérir, car c'est lui qui nous permet de désobéir parfois, de nous libérer souvent et de grandir encore.
Vous venez d'écouter Enfant sauvage, une carte blanche réalisée à l'invitation de la Comédie de Reims. Texte, mise en scène et narration Cédric Aurin, avec Laure Wolf, David Mijot et Péteris Avicorpi. Conception sonore Lucas Lelièvre.